Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir un numéro de Profession Philosophe enregistré en mars 2019 en compagnie de Michael Fessel.
La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Michael Fessel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci de cette invitation.
Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Si je dois me présenter relativement à ma profession, je dis professeur de philosophie. C'est pas seulement, c'est un peu quand même de l'humilité, mais par rapport au titre philosophe, mais qui, bon, je n'en fais pas toute une histoire parce que c'est un caractère un peu particulier sémantiquement du mot philosophe, c'est-à-dire qu'autant on ne dirait pas d'un professeur de littérature qu'il est écrivain, autant on dit facilement qu'un professeur de philosophie est philosophe. Alors la question d'être philosophe ou pas, évidemment, elle est réglée, je dirais, quand on est professeur de philosophie et qu'on étudie des grands textes et les régler par le constat tout à fait élémentaire qu'on ne fait pas la même chose, qu'on ne fait pas aussi grand, aussi fort, aussi puissant, je dis même pas aussi bien. Hein. Et ensuite, professeur de philosophie, c'est pas seulement de l'humilité, parce que d'abord ça relève de ce que je fais effectivement, c'est-à-dire des cours, et comme il se trouve que la philosophie à mes yeux est indissociable de l'enseignement, que c'est un passage de témoin, non seulement de connaissance, de savoir, mais d'une certaine manière, c'est aussi quelque chose, c'est un acte profondément pédagogique depuis le départ, hein, depuis Socrate. Être professeur de philosophie, ça n'est pas, à mon sens, simplement être détenteur d'un savoir, bon, qu'on est censé effectivement tout de même posséder lorsqu'on enseigne cette discipline. C'est quelque chose de peut-être un peu plus difficile. Il y a une dimension d'initiation. Mmh. Et même lorsque j'écris des livres, c'est bien ce qui me distingue d'un véritable philosophe, j'essaie du moins d'avoir un caractère aussi pédagogique dans la mesure où je ne construis pas évidemment quelque chose comme un système, je n'en ai pas les moyens, d'avoir ou de m'adresser au lecteur un petit peu comme je le ferais aussi à des étudiants, c'est-à-dire à vouloir les emmener à un point qui n'est pas forcément le point du savoir, mais le point de l'incertitude, parfois le point du doute, et c'est cela qui fait de cette profession pour le coup quelque chose d'assez passionnant, c'est que l'on n'y distribue pas seulement des connaissances déjà faites, on y livre, qu'on essaie d'y livrer du moins des questions et des problèmes ouverts.
Nous allons passer 50 minutes ensemble, Michael Fessel, pour comprendre votre pratique de la philosophie, en remontant jusqu'à votre rencontre avec la philosophie, en questionnant vos influences philosophiques et extra-philosophiques, en pénétrant dans votre atelier de fabricant de concepts et en réfléchissant au rôle politique du philosophe. Mais d'abord, s'il fallait identifier un concept, une chose, un thème qui vous est cher et autour duquel votre travail prend forme, ce serait sans doute celui de liberté. Depuis votre livre sur la privation de l'intime en 2008, à celui sur l'état de vigilance, la réflexion sur la liberté qui est sacrifiée à la sécurité, sur la liberté que l'on retrouve la nuit, dans votre avant-dernier livre, et enfin dans votre connaissance et votre affection pour le philosophe Emmanuel Kant, que l'on retrouve souvent au gré de vos ouvrages. Est-ce que ça vous convient ?
Ça me convient très bien. Alors évidemment, le mot liberté est un mot qui, par son ampleur, ses résonances politiques et personnelles, est immense. Et donc le travail de la philosophie, c'est précisément d'essayer de préciser ce sens, parfois de le limiter et d'essayer de ne pas simplement avaliser ce qui, dans le discours commun, est associé au mot liberté, qui en général, évidemment, est toujours positif. Alors je dirais, pour citer un livre de Lévinas, « Difficile liberté ». Si je devais dire ce sur quoi j'essaie de travailler, ce n'est pas simplement sur le concept général du mot liberté, sur les différents sens qu'il prend dans l'histoire de la pensée, mais c'est sur la manière dont on peut articuler un idéal, celui donc d'une émancipation, d'une liberté affirmative, à des expériences. Et par exemple, vous avez cité des choses que j'ai écrites sur l'intime ou sur la nuit. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs en première analyse très kantien d'essayer de chercher la liberté dans des lieux d'expérience, mais peut-être qu'en deuxième analyse ça l'est quand même, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement la manière, et c'est pour ça que je fais de la philosophie en fait, je crois, c'est la manière dont une idée aussi abstraite, semble-t-il, produit des effets existentiels, si je puis dire. Et la liberté, dans la mesure où elle a un sens à la fois métaphysique, hein, c'est une cause première, c'est une cause qui n'est pas elle-même l'effet d'une cause qui la précède, c'est comme ça qu'on pourrait définir la liberté de manière philosophique. Donc c'est une idée hautement spéculative, si je puis dire, sur laquelle les philosophes se sont beaucoup battus entre eux, enfin ont développé beaucoup de controverses. Et en même temps, la liberté, c'est sinon une expérience, du moins c'est une épreuve, c'est un combat parfois pour beaucoup d'êtres humains. Ça a été même une lutte, une guerre pour s'émanciper des tutelles qui les gouvernaient. Et moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est la manière dont une signification abstraite peut s'emparer d'un corps, peut s'emparer d'une vie, peut s'emparer d'une conscience.
C'est ça qui vous a attiré vers la philosophie en premier lieu ?
Alors en premier lieu, il y a toujours un côté circonstanciel, la rencontre avec
un texte. Vous vous souvenez de cette rencontre ?
Je me souviens très bien, oui, c'était, on devait être en première, je ne sais pas quel âge on a en première, 15 ans, quelque chose comme ça.
En tout cas, 16, 17, oui.
16, 17. Mmh. C'était avant de faire de la philosophie au lycée. Je n'étais pas quelqu'un qui lisait énormément à ce moment-là. Je suis tombé par les hasards de la vie, c'est-à-dire un ami de mes parents enseignant la philosophie, Marc Schweyer, je le salue d'ailleurs, qui m'a remis un livre de Paul Ricoeur, qui s'appelle « La symbolique du mal ». Il était d'ailleurs déjà question de la liberté. Et de manière peut-être un peu plus, pas, je dis pas originale, mais de manière un peu étonnante, la première chose que j'ai lue en philosophie, ce n'était pas la nausée de Sartre, ce n'était pas un livre de Camus, comme on lit souvent, dans ces années-là, de lycée. C'était un livre beaucoup plus aride, d'un philosophe qui, en plus, ici, prenait comme objet une question qui n'est pas forcément une question qu'on se pose dans l'adolescence, hein, la question du mal commis, la question de, c'est vraiment sur la culpabilité, hein, c'est pas sur la souffrance, c'est sur la culpabilité. Et j'ai été bouleversé. C'est toujours difficile parce qu'après, comme j'en ai fait mon métier,
c'est très difficile à lire.
Pas tellement.
Ah ouais, parce que l'écriture de Ricoeur, elle est quand même souvent hermétique.
Elle est souvent hermétique, mais dans La symbolique du mal, c'est vraiment une analyse des diverses manières dont le mal se dit dans des symboles aussi bien chrétiens que grecs. Donc il y a quelque chose d'un peu littéraire, c'est un travail
littéraire. Il y a quelque chose qui vous a parlé, en tout cas, directement.
Ce qui m'a parlé, alors ça c'est... Encore une fois, la part de ce qui est reconstruit après, je ne la connais pas. Mais disons que ce qui m'a parlé, et me parle toujours, c'est que j'ai découvert d'abord des nuances, parce qu'il distingue la faute, la culpabilité, le péché. C'est-à-dire que par rapport à ce qui m'apparaissait comme, et je crois que c'est quand même ça, la rencontre avec la philosophie, quelle que soit la forme qu'elle prend, ce qui m'apparaissait évident, simple, qui n'a pas besoin d'être développé, eh bien en réalité m'est apparu comme plus complexe. Mais alors, et c'est là où ça devient intéressant, cette complexité même, ces nuances, ces distinctions apportent des effets de clarté. C'est-à-dire que c'est pas le monde complexe comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire auquel on ne comprend rien en quelque sorte. C'est que Ricoeur, dans ce texte et dans d'autres, mais de manière peut-être plus limpide ici, dans ce texte, aménage des transitions, fait des nuances, porte des subtilités qui s'adressent immédiatement à la conscience du lecteur. Qu'est-ce que c'est que se sentir coupable, le sentiment de la faute, etc. Et évidemment, comme c'est aussi, il ne faudrait pas partir que du négatif, la symbolique du mal, c'est aussi une symbolique de l'espérance. Donc il y avait aussi, il y a toute une réflexion sur ce qui nous sauve aussi. Et ben, ayant lu ça, je me suis dit, d'une certaine manière, c'est de ce côté-là que ça se passe ou que ça se passera pour moi.
Et ben, on va reproduire ce choc pour vous aujourd'hui avec la voix de Paul Ricoeur que voici.
Le problème du mal, c'est pour moi de plus en plus le problème du trop de souffrance. Que l'on pense à Auschwitz, que l'on pense à ces 15 ou 20 millions de personnes déplacées, la famine, l'idée d'un progrès qui était, semble-t-il, à portée de main pour les gens du XVIIIe siècle, et encore en plein XIXe siècle, c'est tombé en haillons sous nos yeux. Et donc c'est d'une certaine façon dans les décombres, dans les ruines d'espérances trop courtes et trop prochaines que nous vivons.
Vous écoutez Paul Ricoeur sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Bienvenue sur Les Chemins du Vendredi, profession philosophe, aujourd'hui en compagnie du philosophe Michael Fessel, qui vient de nous raconter que sa rencontre avec la philosophie s'est faite avec un texte de Paul Ricoeur. Ici, on l'a entendu, c'était dans l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture en 1985. Quand vous lisez Paul Ricoeur, alors vous connaissez pas sa voix à ce moment-là, évidemment, vous dites, voilà, c'est les nuances qu'il établit pour s'emparer, réfléchir sur le problème du mal. Mais dans la rencontre entre vous et la philosophie, il y a quelque chose qui s'opère à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait une demande de votre part. Il y avait quelque chose qui existait. Est-ce que vous arrivez à nommer ce que c'est?
Je dirais que ça devait être quelque chose comme une impatience qui ne trouvait pas son objet. Alors évidemment, si je dis demande de sens, crise du sens, bon, alors je ne saurais pas tellement le nommer parce que c'est l'adolescence et que c'est toujours des reconstructions a posteriori. Mais ce que j'ai ce que me rappelle même ce que l'archive qu'on vient d'entendre, c'est que Ricoeur, ce n'est pas, c'est un auteur justement qui nous apprend la patience du sens. C'est-à-dire que évidemment, quand on a 16 ans, 17 ans, on est certainement, et je n'étais pas vraiment comme ça, mais enfin, on est la plupart du temps avide d'avoir des propositions solennelles, hein, comme celles qui justement se trouvent dans le mythe de Sisyphe de Camus ou dans d'autres textes de ce genre. Bon, et ce qui m'a passionné chez Ricoeur, c'est que à la fois il traite de choses qui sont extrêmement aiguës dans l'expérience, le mal, la souffrance, il vient d'en parler, dans l'expérience commune, je dirais, mais c'est quelqu'un qui ne cesse d'emprunter des détours. C'est-à-dire que plutôt que de, comment dirais-je, conclure trop vite, et ça c'est aussi une leçon que en philosophie j'essaie de pratiquer, il ne conclut pas trop vite, c'est-à-dire il ne va pas directement là où on attend à avoir une proposition qui soit une proposition définitive sur la nature du mal, la nature de la faute ou la nature de la joie, la nature de l'espérance. Bon, c'est quelqu'un qui, comme il l'a dit, au milieu des ruines recherche encore l'espérance, et c'est cela qui m'a en quelque sorte, non pas amené à la philosophie seulement, mais amené à une certaine pratique de la philosophie, c'est-à-dire une pratique qui tient compte de l'histoire des notions, de la couche aussi des textes, en l'occurrence ici dans la symbolique du mal, des textes mythologiques ou des textes bibliques. C'est-à-dire que j'ai fait en quelque sorte avec Ricoeur la rencontre, j'étais un élève, un bon élève, mais pas spécialement littéraire, la rencontre dans le même moment de la théologie, de la philosophie et d'une certaine forme de littérature, c'est-à-dire de celle qu'il convoque pour expliquer Dostoïevski et d'autres qu'il convoque pour rendre compte de ce phénomène qu'est la faute. Et prenant tout cela en même temps dans la figure, si j'ose dire, j'ai aussi eu une sorte d'exercice de patience qui concerne, enfin en tout cas c'était un exercice de patience de le lire, car je n'ai pas tout compris évidemment en le lisant la première fois, peut-être même pas et certainement pas encore aujourd'hui, mais enfin en tous les cas, l'idée que les détours ne sont jamais... bien sûr, il faut choisir les bons détours, mais ne sont jamais un moyen d'esquiver la question, mais peut-être de savoir l'élaborer, la poser plus adéquatement.
Est-ce que vous décidez à ce moment-là d'en faire votre métier, ou est-ce que ça vient plus tard ?
Ça vient plus tard, mais le plus tard, en l'occurrence, en France, on peut le regretter d'ailleurs, c'est il faut se décider assez vite. Donc, si c'était en première, j'ai dû décider, en prépa, en classe préparatoire, donc 2 ans plus tard. Il faut dire aussi que des rencontres de livres, c'est une chose. Il se trouve que j'ai pu rencontrer à 2 ou 3 reprises Paul Ricoeur personnellement, et d'ailleurs, il faut le dire, on le sent là, c'est quelqu'un qui était assez passionnant, parce que c'est quelqu'un qui, exigeant, parce que c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout au fait qu'on travaille sur lui. Il voulait rien entendre. J'ai fait ma maîtrise sur lui, mais il ne voulait pas l'entendre parler de cela, mais quand j'ai pu parler avec lui, il ne souhaitait que de parler de philosophie. C'était quelqu'un qui vivait vraiment pour la chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, tout en étant tout à fait bienveillant, c'était quelqu'un qui s'intéressait vraiment à la chose elle-même, comme on peut dire. Alors, pour ce qui est de ma propre vocation, si je veux dire, profession plutôt...
Pas vocation, justement. Vous parlerez pas de vocation.
Non, il y a un caractère religieux, disons, dans la vocation que j'éviterai. On peut dire qu'il y a un appel, malgré tout, des textes, ça, de ce point de vue-là, j'assumerai la phrase. Mes vocations, ça suppose que non seulement je l'ai fait, mais j'ai vraiment bien fait de le faire. Et ça serait quand même...
Et pourquoi pas ?
Pour moi-même, certainement. Mais
C'est à vous que je pose la question.
Bien sûr, pour moi-même, oui. Parce que j'aime aussi enseigner, pas seulement écrire de la philosophie. Mais après, décider qu'on fait bien d'en écrire, c'est autre chose. Après, il y a la rencontre avec des professeurs de philosophie, des cours, et là en particulier mon professeur de Cagnes, Jean-Pierre Fussler, qui m'a alors lui initié, je dirais, à une partie de la philosophie qui est quand même fondamentale, c'est la rigueur de l'argument, la précision des références, chose qu'on abandonne en général quand on finit par faire des essais plus généraux comme ou moins spécialisés comme moi, mais même quand on l'abandonne, enfin en tout cas j'essaie, on ne l'abandonne pas totalement, parce que je dirais, il y a deux manières de faire des essais de philosophie destinés à un public plus large. Il y a celle qui consiste à dire que, ou envisager qu'on ne fait pas de références parce que ça peut bloquer, ça peut mettre trop de références philosophiques, ça met entre le lecteur et le livre un écart trop grand. Et puis il y en a une autre qui consiste à ne pas en mettre beaucoup pour justement que cet écart soit comblé, mais néanmoins... Comment dirais-je ? Si on pouvait l'écrire autrement, on pourrait écrire le même essai avec beaucoup de références, on ne dirait pas forcément plus, mais je dirais que souvent, maintenant, quand j'écris un livre, je lis beaucoup de philosophes avant, je les cite, mais je reprends des problématiques sans forcément toujours les exposer, mais ça, je l'ai appris en classe préparatoire, disons que la philosophie ne part pas de rien. C'est-à-dire que elle, non seulement elle a un ailleurs, elle a des autres, on en parlera peut-être, l'art, la littérature, la vie, d'ailleurs, mais même une idée, On peut l'énoncer, enfin bon, tout le monde ne serait pas d'accord avec ce que je vais dire, mais tant pis. Une idée, on ne peut pas l'énoncer, une catégorie, une notion, on peut difficilement l'énoncer sans faire référence à son histoire. Autrement dit, même si cette histoire n'apparaît pas dans son développement, parce que je l'ai fait dans certains livres d'histoire de la philosophie stricto sensu sur Kant en général, enfin toujours d'ailleurs, mais je ne le fais plus, cela étant, j'essaie d'être fidèle quand même à cette idée que quand on dit cause, quand on dit liberté, on en parlait, quand on dit même Dieu, on ne parle pas de nulle part, mais depuis une tradition essentiellement occidentale pour la philosophie, qui fait que parfois on peut... C'est une fonction critique de se reporter à l'histoire d'une notion, c'est pas simplement pour montrer qu'on a connu, tout lu, etc., ne pas être dupe des mots, ne pas être dupe des significations, c'est tout de même aussi une des fonctions de la philosophie.
Alors on va venir à l'écriture de vos ouvrages dans un instant et puis puiser sans doute dans les références extra-philosophiques. Avant cela, on a encore un instant à rester dans cette, aux origines de cette rencontre avec la philosophie. Vous avez un point commun avec un autre philosophe, c'est que vous aimez le café, je crois.
Oui.
Vous voulez une tasse de café ?
Je veux bien, oui.
La voici.
Monsieur le professeur, on va apporter le café tout de suite.
On va. Mais voilà où le bât blesse, c'est qu'on va.
Monsieur le professeur, voici le café.
L'homme n'a jamais le bonheur. Il va l'avoir.
D'où vient votre amour, j'ose le terme, pour Emmanuel Kant, Michael Fossel, qui revient vraiment, alors là, dans tous vos ouvrages, et depuis votre rencontre avec la philosophie après Paul Ricoeur, j'imagine, on trouve Emmanuel Kant, non ?
Emmanuel Kant, l'amour, c'est évidemment, vu ce qu'il en écrit, on pourrait s'en méfier, parce que lui-même a fait des... comment dirais-je, s'est tenu à l'écart, si je puis dire, de la chose.
Parce que c'est lui qu'on vient d'entendre, je ne l'ai pas dit, dans le film de Philippe Collin, Les derniers jours d'Emmanuel Kant, adapté de l'ouvrage de Thomas de Quincey.
Alors, je dirais d'abord, évidemment, si on en reste à l'aspect biographique qui est suggéré par votre extrait, le type de vie kantienne ne peut me... Enfin, de Kant, parce que justement, en fait, il n'a jamais fait une norme pour les autres. Bon. Mais sa forme de vie a quelque chose d'assez... n'a aucun rapport avec ce que je peux imaginer être une vie humaine. Mais cela étant, cette rigueur, cet ascétisme, cette manière... ascétisme modéré, d'ailleurs, parce que, bon, il buvait du café, il buvait aussi pas mal de vin. Bon. Mais cela étant, cette vie intégralement ordonnée au travail, et puis à une certaine forme d'habitude, mais totalement étrangère. Mais pour cela, au fond, d'ailleurs, ça se vérifie quand on regarde un peu la vie des philosophes. En règle générale, ils ont... Il ne peut pas être question d'autre chose pour eux que d'avoir une espèce d'ordre, puisque d'une certaine manière, leur vie répond à un appel plus important qu'ils appellent en général ou qu'ils nomment vérité. Bon. Alors ensuite, évidemment, il y a le contenu de sa pensée. Et le contenu de la pensée de Kant, qu'on peut pas résumer en deux phrases, mais m'a toujours semblé, comment dirais-je, au sens littéral, je dirais révolutionnaire, c'est-à-dire, on l'a présenté parfois comme le Robespierre de la philosophie, ou comme celui qui casse à peu près tous les dogmes pour reconstruire un nouveau fondement. Ce fondement, il l'appellera, enfin, à partir d'un nouveau fondement, qu'il appelle d'ailleurs liberté. Donc, c'est le geste de Kant, qui évidemment, on ne peut pas comprendre si on n'a pas déjà un petit peu travaillé la philosophie, C'est pas un philosophe, on commence pas par, difficilement par Kant, non seulement à cause de son style, mais pour voir ce qu'il fait, il faut savoir un peu ce qui existait déjà au titre de la pensée, et puis même au titre des institutions, pas seulement, ça n'a pas que de la philosophie, ça a aussi un impact politique, et sa philosophie a quelque chose de, au fond j'oserais dire, quand même malgré tout d'émouvant, en ce sens que, vous savez, quand je lis un philosophe comme Nietzsche, ensuite, puisqu'on parlait avant d'être professeur ou pas, quand je lis Nietzsche, j'essaie ensuite, Rousseau, de retraduire en concept, si je dois faire un cours sur Nietzsche ou parler de Nietzsche, retraduire en concept ce que j'ai d'abord saisi sous la forme d'une intuition, parce que l'écriture est belle, parce que l'écriture est convaincante, rhétorique aussi, admirable de ce point de vue-là. Quand je lis Kant, ou d'autres, mais singulièrement Kant, alors là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ici s'exerce mon imagination. Je me sens plus libre en ce sens que le lisant dans sa rigueur argumentative, son style absolument académique, parfois il écrivait pas trop mal, mais enfin dans les grands textes, la critique, la raison pure et les autres, évidemment il s'agit d'un type démonstratif de philosophie. Alors, compte tenu de ce dont il parle, pensez par exemple à ce qu'il dit du beau ou du sublime, surtout dans la critique de la faculté de juger, un homme qui n'a jamais connu Königsberg et qui commence à imaginer les pyramides ou à imaginer une mer en puisque c'est ça le sublime, c'est la mer en tempête et le sentiment d'être débordé de toutes parts par la nature. Donc au fond, il essaie toujours ou il s'affronte toujours à ce qui est en excès, et c'est le penseur des limites. Mmh. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est le type de philosophie que je pratique, en tout cas auquel j'adhère, hein, c'est-à-dire prendre la chose là où elle est le plus, j'ai parlé de la consolation, à un moment là où elle est le plus douloureuse, ou là où, ou la nuit, là où elle peut être le plus excessive, et essayer, malgré tout, non pas de porter des limites au sens, il faut pas aller dans ce domaine-là ou dans ce champ-là, hein, mais essayer de porter, entre guillemets, au concept, c'est-à-dire malgré tout à la réflexion philosophique, ce qui semble lui échapper du fait même des excès de souffrance dans la consolation, ou excès tout court, tous les sens du terme, dans la nuit. Plutôt que de... Il y a une autre manière de faire, je dirais, la manière qui consiste précisément à construire une philosophie ou à faire une philosophie pour intensifier son existence, d'une certaine manière. Bon, un philosophe comme Nietzsche, sans doute, Deleuze, certainement, dans le contemporain, sont sur sa voie-là, et tous ceux qui se revendiquent de cette tradition. Je, pour des raisons que j'ignore, je procède à l'inverse, c'est-à-dire que quand j'essaie de faire de la philosophie, quand j'écris de la philosophie ou que je fais un cours de philosophie, c'est pour maîtriser ce que, dans mon existence, je ne maîtrise pas. Ce n'est pas
une
pour...
question de contrôle. Reprendre la
maîtrise,
main,
c'est alors de reprendre la main, oui, oui, alors oui, être, mais au sens positif, c'est-à-dire se sentir tout de même un peu libre, parce que la vie est quand même faite, la vie biologique, la vie psychique, elle est faite de toutes sortes de contraintes et de déterminisme, d'obligations sociales aussi, de nécessités sociales. Si la philosophie, alors ça c'est un point effectivement que je tire de Kant, mais en fait, bon, c'est déjà chez Platon. Si la philosophie n'est pas une libération, alors après il faut s'entendre sous quelle forme, est-ce que c'est la connaissance qui nous libère, est-ce que c'est par l'action, est-ce que c'est par l'expérience esthétique, ça, il peut y avoir des nuances. Mais en tous les cas, si la philosophie ne constitue pas non seulement une libération, mais une expérience de la liberté de penser, au sens fort du terme, alors elle ne vaudrait pas une heure de peine.
Quand on entre dans votre tête ou dans votre cœur, on y lit ceci, que nul n'entre ici s'il n'est confiant dans ce qui s'y montre, et la seconde d'après, on entend ça. Les plus fêtards d'entre vous auront reconnu la playlist qu'on peut entendre au Berghain, la boîte de nuit qu'on trouve à Berlin et qui fait l'objet d'un chapitre dans votre livre sur la nuit, Michael Fessel. La devise que j'ai lue, en fait, on la trouve à l'entrée du Berghain. J'ai dit que c'est à l'entrée de votre tête, justement, pour montrer que derrière Kant, derrière Ricoeur, on y trouve aussi des expériences que vous avez choisi de ressaisir pour votre écriture. Ces expériences-là, on va essayer de les comprendre ensemble. En quoi est-ce que l'expérience de la boîte de nuit ici du Berghain peut être importante pour le penseur et le philosophe que vous êtes ?
Si on la prend comme expérience, je dirais privée, elle n'apporte pas spécialement d'intérêt par rapport à l'activité philosophique, parce que bon, après chacun a ses goûts, hein, ses goûts musicaux, j'entends, je veux dire bon, l'opéra ou le Berghain, enfin la musique électronique.
D'ailleurs, on trouve pas que ça dans vos références.
Hein, non, mais c'est ce qui est peut-être le plus je le savais en l'écrivant, inattendu de la part de quelqu'un qui la philosophie ou qui
à l'école polytechnique.
À l'école polytechnique, voilà. Et maintenant. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est extrait tout de même d'un livre sur la nuit. La nuit, une partie de la nuit, c'est la nuit habitée. C'est en tout cas d'ailleurs le propos général du livre, montrer que la nuit est un monde, elle n'est pas l'absence de toute réalité, elle n'est pas le néant, elle n'est pas les ténèbres. Et l'habitation de la nuit prend diverses formes. La fête en est une. Et la fête du style Berghain en est encore une autre. Alors, c'est évidemment pas pour donner ou faire état de ce que j'y ai vu d'ailleurs, ou pas, ou vécu, parce que ça n'intéresserait personne, mais c'est parce que ce type d'endroit, de lieu, pas singulièrement celui-là d'ailleurs, par sa grandeur, sa taille, son caractère extrêmement, apparemment angoissant d'ailleurs, montre ou met en œuvre ce que j'appellerais un certain régime de phénoménalité. Si un philosophe un peu technicien le dirait, mais c'est exactement la formule que vous avez employée, que nul n'entre ici s'il ne se fie pas ou se confie pas à ce qui s'y montre. Ça veut dire qu'évidemment, d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de gens ne vont pas dans ce genre de lieu, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans l'obscurité, dans la possibilité qu'il y aurait de tomber, la fatigue qu'entraîne ce genre de musique, etc. Bon, ce que je respecte évidemment infiniment. Mais en revanche, il y a aussi des gens qui y vont. et qui y vont pour y être vus, dans ce genre de lieu ou dans des lieux plus mondains encore. Cela aussi, à mon avis, passe à côté de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est ce qui m'avait intéressé sur la nuit elle-même, pas seulement au Berghain, c'est il y a nécessité pour habiter la nuit, mille manières de l'habiter, mais pour l'habiter, de s'abandonner, en quelque sorte, au phénomène, hein, c'est-à-dire aux choses qui se montrent, mais qui se montrent évidemment à la différence du jour, dans une forme de pénombre, dans un clair-obscur, qui peut les rendre plus menaçantes, qui peut les rendre plus intrigantes. Et en réalité, il y a ce laisser-être, ou cet abandon-là, qui m'a intéressé, et qui... par exemple, trouve sa forme dans cet abandon à la musique, parce qu'évidemment, dans ces lieux-là, le type extrêmement, comment dirais-je, provocateur de la musique qui requiert tout le corps, toute l'activité du corps, hein, danser sur ce genre de musique, cela veut dire essayer d'épouser par son corps le dégradé des basses et les monter vers les aigus. Bon, cet abandon à l'ouïe m'apparaît tout à fait caractéristique de ce qui se passe la nuit. Donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, réfléchissant en philosophe sur la nuit, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est-à-dire que comme on voit moins bien, d'autres sens, singulièrement l'ouïe, le toucher aussi, prennent le relais. Et c'est ce relais, quand il devient un plaisir, je dirais, ou une joie, qui est intéressant parce qu'évidemment, la plupart du temps, c'est un moyen de détresse. Hein, l'oreille qui vient nous apprendre, et en plus, comme on interprète tout en fonction de ce qu'on entend, il peut y avoir de la peur. Dans ce genre de lieu et d'autres, cette baisse de la vigilance, justement, ce moment où on est un peu moins aux aguets, devient... pour ceux qui aiment cela, évidemment, un moment de joie, et de ce point de vue-là, c'est aussi une leçon philosophique que de dire que, d'une certaine manière, le bonheur n'est pas un exercice de la connaissance. Voilà, c'est une idée qu'ancienne, donc Kant et le Berghain, on pourra discuter à l'infini, mais cela étant, l'idée qu'il n'y a pas de savoir du bonheur, que le bonheur ne peut pas être défini une fois pour toutes, et ensuite que la société entière doit être construite autour de cette définition du bonheur, ce qui est presque déjà une définition, une conception totalitaire, eh bien, d'une certaine manière, même si c'est angoissant, parce que du coup, il n'y a pas de recette du bonheur, il n'y a pas de pratique théorique totale qui nous mène au bonheur, la contemplation ne suffit pas au bonheur, mais des joies qui suppose au contraire qu'on laisse de côté cette injonction à connaître, à savoir, à comprendre tout ce qui se passe, sont des joies qui sont non seulement intéressantes biographiquement, mais qui peuvent peut-être aussi être intéressantes du point de vue de la philosophie.
On le sait bien, à la radio, hein, moins on voit, mieux on entend. Et d'ailleurs, on va rester dans la musique à côté de ce qu'on vient d'entendre. On peut trouver ceci.
Long floating, shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving. And you sang, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold. Did I dream you dreamed about me?
Que sommes-nous en train d'écouter, Michael Fessel?
On vient d'écouter un passage d'une très belle chanson de Tim Buckley, qui est moins connu que son fils, Jeff Buckley, mais qui mérite tout de même, à mon avis, qu'on y prête oreille. Et en particulier, alors cette chanson, moi, m'a toujours beaucoup... bon, c'est une très belle chanson, mais il y a cette phrase, hein, « Did I dream, you dreamed about me »,« Est-ce que j'ai rêvé que tu rêvais de moi ?» Je trouve cette mise en abîme, en quelque sorte, dans un rapport amoureux, j'imagine, absolument vraiment magnifique, c'est-à-dire vouloir habiter le rêve de l'autre, rêver d'être le rêve de l'autre en quelque sorte, non pas pour le hanter, mais ou alors pour être un spectre heureux. Je crois que c'est aussi une belle définition à la fois de la relation amoureuse, ou peut-être même amicale, mais enfin essentiellement ici amoureuse, et de sa difficulté, c'est-à-dire en réalité, on n'est jamais sûr, quoi. Hein. Est-ce que vraiment j'ai rêvé que tu rêvais de moi, c'est-à-dire que tu m'aimais, quoi. Est-ce que ça n'a été qu'un songe? Est-ce que ça n'a été, et si ça a été un songe, après tout, peut-être ça a été un magnifique songe. Bon, c'est tout ça que m'inspire cette chanson qu'il faut écouter quand on va plutôt bien, parce que ou qu'on n'a pas trop de doutes sur le fait d'habiter le rêve de l'autre. Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you.
Hey, Henny. Ja, ich will nicht wieder weg, was?
Doch, doch. Wegarbeit, was?
Arbeit, Sklavendienst.
Schön sehen wir aus.
Früher waren wir noch Männer. Nationalsozialist. Heute?
Nazis. Ja, ja.
Henning, die Bahn kommt!
Alles Gute.
Tschüss. Hallo, Einkauf.
Komm, mein Junge, komm. Gib mir mal deine Tasche. Und in der Schule? Was bringen Sie euch da jetzt bei? Demokratie?
Das kann ich Ihnen nicht ganz genau sagen, weil ich gehe jetzt vorläufig nicht zur Schule.
Warum denn nicht? Gefallen dir deine neuen Lehrer nicht?
Das schon, aber ich muss arbeiten.
Arbeiten, warum denn?
De Tim Buckley à Roberto Rossellini, quand on vous a demandé, Michael Fessel, quel film tenait une place importante dans votre cœur et peut-être dans votre travail, vous nous avez dit Allemagne, année zéro, dont nous venons d'écouter un extrait. Pourquoi ?
Alors on reste dans des choses qui peuvent être difficiles, mais justement Allemagne année zéro, c'est un film, comme son titre l'indique, qui filme un jeune enfant dans les ruines de Berlin. Alors bon, là il y a beaucoup de choses, on a parlé du Bergheim, bon, j'aime beaucoup Berlin d'ailleurs, en partie parce que c'est une ville qui s'est édifiée, là je parle de Berlin d'aujourd'hui, sur des ruines, je dirais à tous les sens du terme, d'abord matériellement, mais évidemment sur les ruines aussi, et heureuse celle-ci, du nazisme, ce qui est le propos du film de Rossellini, et aussi du stalinisme pour la partie est de la ville. Et une ville qui s'est édifiée sur des ruines, évidemment, n'a pas la possibilité qu'ont des villes qui heureusement ont été sauvées dans leur patrimoine, je dirais, de se muséifier. Donc c'est la vie qui l'emporte en quelque sorte, l'invention sur le monument. Et de ce point de vue-là, Berlin aujourd'hui est une ville non seulement qui m'intéresse, mais qui, dans le film, alors pour revenir à Rossellini, montre un enfant, d'ailleurs je pense l'extrait, c'est pour autant que je l'ai reconnu, c'est quand il parle avec son instituteur nazi.
Et pédophile.
Et pédophile aussi, et qui va le mener à commettre un crime à cet enfant, qui va se perdre dans les ruines de Berlin, comme au fond l'image d'un peuple qui aurait été totalement, pour une partie par sa faute, mais enfin qui aurait été abandonné par l'histoire. Et là, il s'agit de la figure d'un enfant, donc celle a priori de l'innocence. Alors c'est un film qui néanmoins, pour au moins une de ses scènes, montre, qui finit mal, mais je veux dire qui montre ce que c'est que faire un monde. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la notion de catastrophe, mais pas en tant justement dans un esprit catastrophiste, au sens de une fois que les choses sont tombées à terre, y compris politiquement, comment essayer d'affronter ce pire. Et dans une des scènes de Allemagne année zéro, on voit cet enfant jouer dans les ruines, c'est-à-dire en réalité se servir d'une poutre écroulée comme d'un toboggan, c'est-à-dire faire finalement monde au sens littéral du terme, c'est-à-dire de ce qui est apparemment la figure du vestige, du pire, de la destruction des ruines, faire un espace de jeu. Et Et là, il y a une image, une scène qui avait d'ailleurs très bien décrite Deleuze dans son livre sur le cinéma, qui d'une certaine manière montre bien que il faut peut-être pas grand-chose pour faire un monde, enfin en tous les cas qu'il est toujours possible d'habitude, enfin il n'est pas toujours possible, mais il est souvent possible et toujours bon d'habiter le monde, le réel plutôt, comme quelque chose qui, d'une certaine manière, marque une forme d'adéquation entre nos corps et puis l'espace. C'est bien ça le jeu.
D'ailleurs, j'ai présenté votre travail comme s'articulant autour du concept de liberté. J'aurais pu choisir celui de monde, tant il traverse aussi votre travail. Vous avez écrit « Après la fin du monde », la critique de la raison apocalyptique, Kant et l'équivoque du monde, et finalement que ce soit le livre sur l'intime, sur la nuit, ou même le dernier qui s'appelle « Récidive 1938 » aux éditions PUF, où vous lisez la presse de l'année 1938 pour essayer de comprendre ce qui a pu conduire à 1939 et vous établissez une analogie avec aujourd'hui. Et vous interrogez aussi quand même ce monde qui change, qui peut-être va finir ou qui peut-être va commencer, mais c'est un concept qui vous est très cher.
Oui, effectivement, et d'ailleurs, d'une certaine manière, monde et liberté, parce que, bon, ça ferait rentrer là dans la technicité un peu de la critique de la raison pure, mais je l'énonce simplement parce que c'est important pour mon travail, puisque j'ai commencé en faisant une thèse sur Kant et le monde. L'idée de liberté chez Kant, elle vient à la place de ce qu'on appelait avant l'idée de monde dans la cosmologie traditionnelle, pour toute une série de raisons, et la raison fondamentale, je dirais, c'est que le monde, c'est pas la nature. C'est-à-dire le monde, c'est pas le règne du déterminisme, c'est pas le règne causal des phénomènes dont l'étude relève de la science. Quand on dit monde, on dit toujours, ou on emploie toujours une notion normative, c'est-à-dire on dit mais c'est pas un monde ça, par exemple, ou on dit, c'est d'ailleurs le contraire de c'est, enfin l'équivalent de ça n'est pas un monde, c'est immonde, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui finalement est intolérable. Et donc le monde se situe à la charnière, la notion même de monde se situe à la charnière de, disons, de la norme. On dit qu'est-ce qu'il faut pour faire un monde, hein, et puis du sensible. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit quand l'enfant justement de Allemagne Année Zéro, il subit les ruines. Et là, jusque-là, il n'est pas dans le monde jusqu'au moment où il utilise ces choses de briques et de brocs, ces pierres pour jouer. Et donc, à partir de là, il constitue un monde, c'est-à-dire un espace dans lequel il est possible d'agir. Voilà. Et alors, si je devais vraiment résumer ce qui m'intéresse en philosophie et surtout ce qui m'interpelle, je dirais aussi en philosophie politique, c'est les conditions d'aménagement d'un monde, c'est-à-dire encore d'une expérience où tout ne soit pas vécu sur le mode de la fatalité, de la nécessité, de l'impossible. Et la philosophie, j'ai été sensible, moi, une tradition, j'ai travaillé avec un tout petit peu Ricoeur, Myriam Rovedalone, j'ai connu un petit peu Claude Lefort, c'est une tradition qui essaie d'articuler la philosophie politique, la démocratie, disons, la pensée de la démocratie, avec des expériences sensibles, pour le dire très vite, c'est la phénoménologie du politique. Ça m'importe beaucoup parce que j'ai le sentiment, et même la certitude d'ailleurs, que tout ce que l'on peut, tout ce que l'on appelle aujourd'hui retour du désir autoritaire ou post-démocratie, ou même à la limite, bon, des terminologies que j'emploie peu, mais enfin, populisme, illibéralisme, bon, c'est-à-dire toute cet abandon par rapport aux exigences démocratiques que l'on peut constater dans le monde, dans certains nombres de pays, elle est même très avancée, hein, y compris des pays voisins de la France, comme l'Italie, bon, cela renvoie en dernière instance, évidemment, à une crise sociale, une crise économique, un problème institutionnel, la question de savoir si la démocratie doit être représentative ou pas, mais ça renvoie aussi à des expériences qui sont des expériences, souvent, quand elles mènent à des dangers pour la démocratie, des expériences de ressentiment fondées sur le constat d'une vie impossible, quoi. C'est-à-dire rendue impossible par les machines, les contraintes sociales, la difficulté à vivre. Et de ce point de vue-là, il me paraît non seulement intéressant, mais utile, peut-être urgent, de réfléchir à ce qui, dans les conditions du présent, hein, l'analogie avec le passé ne suffit pas, dans les conditions du présent, permet quand même de reconquérir un peu de liberté, c'est-à-dire un peu de monde.
Mais comment fait-on pour ressaisir le sensible en philosophie ? Est-ce que dès lors qu'on met un concept sur une réalité sensible, on ne perd pas cette sensibilité-là ?
Non, au contraire, on l'éclaire. Évidemment, il faut que le concept en question soit non pas un concept dominant ou niant la spécificité du sensible, mais autant que possible, un concept qui émane du sensible lui-même.
Prenons des exemples. Vous écrivez, vous avez beaucoup écrit, j'ai cité quelques-uns de vos livres. À quel moment est-ce que vous dites que telle expérience, tel affect ou telle intuition mérite d'être ressaisi sous forme d'un concept ou sous forme d'une idée et donc vous invite à vous mettre à votre table de travail à écrire un livre ?
Par exemple, quand j'ai écrit un livre sur la consolation, bon, il est évident que la consolation, c'est une expérience courante. C'est une expérience dont, d'ailleurs, non seulement l'expérience de la consolation est courante, mais ce qui est encore plus courant, c'est l'échec de la consolation, le fait de ne pas trouver ses mots face à une douleur qui n'est pas la nôtre, hein, puisque le consolateur, c'est sa difficulté, doit parler d'une souffrance qui n'est pas directement la sienne. Bon, donc, De ce point de vue-là, il y a peut-être pas des théories, mais en tout cas des approches littéraires, mais aussi psychologiques de la consolation. Bon. Moi, je me suis intéressé à ce phénomène en philosophe, c'est-à-dire, bon, d'abord, il y a une tradition philosophique qui consiste à dire, mais elle est épuisée depuis longtemps, mais qui consiste à dire que la philosophie console, parce que le savoir console le savoir, mais pour cela, évidemment, il faut avoir un savoir sur Dieu, sur l'âme, sur l'immortalité, que la philosophie, généralement, ne revendique plus aujourd'hui. Mmh. Donc, la philosophie ne console plus. Par contre, il m'a semblé que, et c'est un peu comme ça que je procède toujours, on peut prendre un thème. Il y a des gens qui vont directement vers des thèmes philosophiques, souvent très très aigus, très immédiatement politiques, par exemple, et les traitent. Bon, moi, j'ai pour méthode, d'une certaine manière, de prendre des thèmes qui apparemment sont des thèmes vraiment liés au sensible, comme la consolation ou la nuit ou l'intime, et essayer de les politiser, c'est-à-dire de les durcir, en fait, de prendre des choses un peu molles. Parce que la consolation, on pourrait juste demander si c'est une affaire de religion, ou c'est une affaire, ou alors c'est l'opium du peuple, quoi. La consolation, finalement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on doit faire politiquement. On doit faire la révolution, on ne doit pas faire la consolation. Bon, tout type de discours que j'entends, mais je veux dire que ce qui m'intéresse, c'est de ressaisir les capacités de contestation du réel, là où elles se situent, même de manière apparemment la plus intime, la plus apolitique. Or, dans la contestation, dans la consolation, il y a une contestation. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est injuste ce que tu vis. C'est vrai que ta souffrance n'est pas nécessaire. Le mauvais consolateur, c'est celui qui va dire, bah oui, ma foi, c'est les amis de Job, par exemple, qui lui expliquent que s'il souffre, c'est qu'il doit nécessairement avoir péché, donc avoir fauté. Alors que la consolation authentique, c'est la consolation qui reconnaît dans le chagrin de l'autre le fait que l'être et le devoir être sont différents. C'est-à-dire que ce qui est ne devrait pas être. Et c'est tout de même le point de départ, je dirais, de la philosophie de la justice que l'expérience de l'injustice.
Mais ça vous console d'écrire ?
Ça me console d'écrire, c'est difficile à dire, parce qu'il faudrait que je sache exactement depuis quelle perte j'écris.
Pas forcément. Mais... parfois on se sait triste, on ne sait pas pourquoi, mais on voit qu'il y a un rapport, oui, de consolation, presque de soin dans l'écriture.
La seule fois où je dirais ce que vous venez de dire, ça console, c'est pour le dernier. Parce que,
donc récidive.
Oui, parce que j'ai passé une année à lire La Presse de 1938, ce qui n'est pas français, ce qui n'est pas une expérience de joie. Pour quantité de raisons, mais bon. Mais je l'ai fait sans penser que j'allais écrire un livre. Et là, pour le coup, j'ai ressenti la nécessité de l'écrire. Alors bon, consolation, je ne sais pas, mais en tous les cas, comme pour exorciser un spectre, hein, c'est-à-dire sortir de cette année, littéralement, qui est une année de défaite de la démocratie. Alors, ce qu'il y a, là oui, mais je dirais presque même thérapeutique. Mais pour le reste, je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est de la consolation, mais il y a en tout cas, quand même, sinon on ne fait pas de philosophie, ou on ne ferait pas non plus d'histoire si on fait de l'histoire, ou de la biologie si on fait de la biologie, il y a tout de même non seulement une joie, mais on se sent un peu plus libre d'avoir ou de croire avoir compris. Bon, après, on peut toujours se tromper, évidemment.
C'est
mais
pour comprendre.
Oui, c'est mais pour comprendre, c'est-à-dire ne plus subir, quoi. Voilà, sachant que comprendre ne veut pas dire ni maîtriser la chose. Par exemple, c'est pas parce qu'on écrit sur la consolation que du coup on va devenir magiquement expert en consolation. Mais par contre, en l'occurrence, comme j'ai essayé d'expliquer dans ce livre qu'on ne peut plus avoir des consolations parfaites et absolues. Bon, cela a et j'ai donné des raisons pour cela, pas simplement la difficulté de la chose elle-même. C'est l'absence de Dieu, en quelque sorte, qui explique qu'on ne peut plus avoir une consolation définitive. Le fait d'avoir tenté de, alors évidemment, encore une fois, on n'a jamais de certitude, tenté de comprendre et d'avoir été, souvent avec l'aide d'ailleurs d'autres philosophes, aidés pour cela, malgré tout, constitue une forme de résistance par rapport au phénomène quand il a, parce qu'on sait bien qu'une difficulté politique, il ne s'agit pas que de souffrance, une situation politique particulièrement inquiétante est encore plus inquiétante quand on la subit comme un événement absolument inédit et auquel on ne s'attendait pas. Bon. Donc la philosophie, c'est pas du tout à mon avis une manière où ça nous en tout cas c'est pas comme ça que je le conçois, c'est pas une manière de construire un rempart entre le monde et notre âme, d'une certaine manière, comme les stoïciens le pensaient, pour n'être accessible à rien, ou pour n'être plutôt travaillé ou transformé par rien, au contraire. C'est une manière de s'ouvrir au monde, et donc aussi d'être perturbé par lui, mais en comprenant peut-être un peu mieux ce qui, dans le monde, mérite véritablement de nous convoquer.
Est-ce que c'est une forme d'engagement pour vous, l'écriture ? Est-ce que vous avez une responsabilité politique ou sociale en tant que philosophe ?
Bah, dès lors que j'écris, oui. Enfin, de toute façon, c'est la responsabilité de toute... alors là, pour le coup, professeur aussi. C'est-à-dire, on a la responsabilité, et minimale, je dirais, d'essayer de présenter dans un cours, une conférence ou un livre, les choses...
Ou dans la presse que vous avez tenue, ou dans la presse. Je ne sais pas si vous la tenez encore, une chronique régulière dans Libération.
Oui, qui... bon, là, et la difficulté, c'est d'articuler quelque chose d'un petit peu philosophique à l'actualité, mais je dirais, bon, je ne fais pas... Enfin, évidemment, ce sont des exercices à chaque fois différent, mais la première responsabilité, je dirais, c'est la probité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas là de, c'est ce que disait d'ailleurs Nietzsche, hein, c'est-à-dire, c'est pas forcément dire la vérité toujours. Parfois, il vaudrait mieux effectivement ne pas prendre la parole trop souvent. J'en ai conscience, mais quand on le fait. Essayer, en tout cas, d'apporter en même temps qu'une idée, je dirais, les arguments et puis surtout les contre-arguments, si jamais ils existent. Donc, en ce sens, on est engagé. De toute façon, bon, j'ai jamais très bien compris, je vous avoue, ces débats sur l'engagement en philosophie où on convoque Sartre, soit pour, soit contre, parce que je crois que c'est Merleau-Ponty qui disait, on est de toute façon toujours interpellé. Enfin, je veux dire, il y a un engagement qui est dans le corps, le moindre geste.
Oui, bah le problème peut venir dès lors qu'un engagement politique met fin au questionnement dont vous parliez, au doute et à l'incertitude. Donc, est-ce compatible ? Plaider si en faveur d'un candidat, par exemple, tout en professant l'effort de penser contre soi-même et de ne jamais tenir une opinion pour une vérité, là, peut-être qu'il y a une incompatibilité.
Si l'engagement veut dire un engagement politique militant, je veux dire, on pourra en discuter. Mais enfin, bon, après, vous savez, d'abord, ça n'est plus tellement d'actualité, hein, parce que les intellectuels ne sont plus, la plupart d'entre eux ne sont plus militants comme ils ont pu l'être. Et puis ensuite, souvent on présente ça comme une grande victoire sur les effets de dogmatisme qu'a pu constituer le militantisme dans les années 60 ou 50. C'est vrai, sûrement. Cela étant, il y a quelque chose dans la disparition, alors moi je ne dis pas de l'intellectuel militant, mais de la disparition, ou en tout cas l'effacement de la figure du militant politique. Quelque chose qui, pour moi, n'est pas forcément un progrès, parce que c'était quand même je parle pas encore une fois des dirigeants, hein, mais le militantisme, c'était une école de savoir, que ce soit le Parti communiste, le Parti socialiste, certainement le Parti gaulliste à un temps, au début, c'était une manière pour des individus qui n'étaient pas passés par les grandes écoles ni même par les petites d'apprendre sur le terrain.
Vous en parlez au passé, mais c'est ce qui se passe en ce moment.
Alors,
la rue.
Là, c'est plus un parti, on le dit assez, c'est pas bon. Et alors, c'est un militantisme, pas au sens strict du terme. Par contre, ce qu'il y a, c'est que je vois ça à travers de l'extérieur. Hein, mais ce qu'il y a, c'est que des solidarités et des expériences communes qui étaient autrefois données souvent dans l'entreprise elle-même, dans l'usine en l'occurrence, se sont constituées ici très vite autour de ronds-points et de la part de personnes qui ont des destins sociaux parallèles, si vous voulez, au sens strict, hein, c'est-à-dire ils ne se rencontrent jamais, même s'ils ont des destins sociaux tout à fait similaires. Alors de ce point de vue-là, on peut dire effectivement que la figure du militant peut revenir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir, avec les excès qui peuvent avoir lieu aussi, mais qui n'invalident pas l'expérience pour moi, ce que c'est qu'une sorte d'apprentissage politique rapide, quoi. C'est-à-dire où en quelques semaines, on politise son discours, hein, je répète, ça va pas sans excès, mais après tout, si on ne le politise jamais, c'est-à-dire si on le garde dans le champ, disons, du psychologique, de la souffrance ou du ressentiment, le risque, évidemment, c'est qu'il explose sous une forme encore plus violente.
Et vous militez de votre côté ?
Non. Enfin, je ne milite non pas dans un parti, ni dans un... Mais à partir du moment où je prends des positions et dans des livres, ou parce que j'ai aussi une collaboration ancienne avec des revues qui sont des revues comme Esprit, des revues qui sont à la fois intellectuelles, mais en même temps politiques, bon, alors en ce sens, je dirais, je milite pour la liberté, pour le monde, puisqu'on l'a...
Difficile d'être contre.
Voilà. Oui, enfin, c'est-à-dire difficile d'être contre, mais... plus facile d'être, d'avoir une conception de la liberté, en particulier centrée sur sa dimension essentiellement économique, qui a des effets parfois très négatifs sur la liberté juridique et politique à laquelle je tiens plus qu'à l'autre.
Vous ne militez pas, mais vous avez une vision du monde clairement établie. On va se quitter avec un chant que vous aviez suggéré. Il s'agit de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, nous étions partis sur Paul Ricoeur et la symbolique du mal. Je ne suis pas vraiment croyant, je dirais, mais quand j'écoute Bach, je le deviens. Et donc, la puissance de cette musique et la puissance aussi de l'histoire qu'elle met en son, si je puis dire, c'est-à-dire la passion du Christ, c'est quelque chose qui... vous savez, il y a Nietzsche qui disait « Tous les philosophes sont des chrétiens qui s'ignorent, il n'y a rien à faire, lui, essayer d'en sortir. » Je crois qu'il a raison. Moi, je n'essaie pas spécialement d'en sortir, comme lui. J'essaie de ne pas en être totalement dupe. Mais, au fond, quand j'écoute Bach et que je vois la manière dont il a saisi musicalement ce qu'a été cette passion du Christ, je me dis c'est divin, mais je ne sais pas si c'est divin. Est-ce que c'est le Christ qui est divin ou est-ce que c'est Bach qui est divin? Je l'ignore et je reste de ce point de vue parfaitement agnostique, mais je ne peux pas l'entendre sans me poser la question.
Eh bien, le voici. Merci, Michael Fessel, d'être venu ce matin nous parler de votre travail. Votre dernier livre s'appelle Récidive 1938. Il est disponible au PUF. De Bach à Géraldine Mosna-Savoie sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est philosophie, mais vendredi, c'est l'anti-manuel de philosophie.
Et aujourd'hui, Adèle, un sujet qui revient beaucoup quand on s'intéresse à toute la production entre philosophie et développement personnel, la peur. Comment l'apprivoiser? Comment la dépasser? Vivre avec ou carrément l'aimer? Ce sont les questions qui reviennent le plus souvent à propos de la peur. Et pour y répondre, Sénèque, Spinoza ou Nietzsche seraient de précieux conseillers. Mais pourquoi? Pourquoi faudrait-il se débarrasser de la peur? Faire avec ou l'aimer? La peur est-elle encore de la peur quand on l'a apprivoisée? C'est la question que je me suis posée.
Se rendre compte qu'il y a des outils qui permettent de s'affranchir de nos tendances habituelles, des toxines mentales qui empoisonnent notre existence et celle des autres. On peut, peu à peu, par l'entraînement de l'esprit, amenuiser notre tendance à l'agression ou à la peur ou à l'anxiété ou à la jalousie, etc.
tapez peur sur Google et vous tomberez sur toutes sortes de conseils, de tutoriels et d'astuces pour l'éliminer. La peur est mal vue, paralysante, mauvaise conseillère, émotion primaire et animale. Tout est mis en œuvre pour optimiser notre marge de manœuvre individuelle, que nous ne soyons plus empêchés par rien, ou pour réduire les risques collectifs, que nous soyons en sécurité partout. Et je dois dire que tout cela me semble vraiment paradoxal. Car à force de vouloir la réduire, l'encadrer ou l'annihiler, on rend en fait la peur omniprésente, on la rend nécessaire. Pour se donner des excuses quand on n'agit pas, ou à l'inverse pour se glorifier d'avoir bravé le danger grâce à son courage, pour pouvoir tout sécuriser à outrance ou au contraire pour se vanter d'aimer les frissons. La peur, et c'est ce qui me fascine avec elle, est à la fois détestée et recherchée, haïe mais désirée, repoussée mais centrale. D'une certaine manière, c'est la définition même de la peur, émotion primordiale, elle est à la fois ce qui révèle notre fragilité face au danger et notre force face à ce même danger. Mais pourquoi aujourd'hui en parler pour la supprimer, la cultiver pour mieux l'éliminer ?
Ivy, t'as entendu ? Ivy !
Il y a un clown chez nous ! Il est en lien avec moi !
Non, attends ! On va appeler la police !
Oh, c'est dans sa chambre là-haut !
Crainte, mais primordiale, pourquoi la peur a-t-elle pris tant d'ampleur aujourd'hui? Pourquoi est-elle tant présente, discutée, voire recherchée pour être en fait supprimée? C'est la question que je me suis posée en regardant une série d'horreur déjà vieille de 9 saisons, American Horror Story. Ici, chaque saison est indépendante et surfe sur des peurs et des univers archétypaux. La maison hantée, la secte, l'asile de fous, le tueur en série, de la simple anxiété à la terreur froide, sans oublier tout le panel des phobies. C'est le cas par exemple du personnage d'Ali que l'on vient d'entendre dans la saison 7 qui a fait de ses phobies, sang, trou et clown tueur, le centre de sa vie. D'abord paralysé par elle, Ali parvient, on ne sait comment, en milieu de série, à les supprimer et à remplir le vide qu'elles ont laissé par une autre émotion, la vengeance. Ce qui est très intéressant ici, c'est que la peur n'a pas été supprimée en tant que telle, c'est la peur de la peur qui a été brisée. La peur, elle, avec sa fureur de vivre, est préservée et convertie pour persister dans l'existence et non plus seulement pour résister jusqu'à l'épuisement. Et c'est au fond ce qu'on recherche en regardant une telle série d'horreur. Et moi, la première, je veux transformer mon rapport à la peur, je veux l'affronter, être plus fort. Mais pourquoi ? Pourquoi vouloir ainsi se mettre à l'épreuve ? Qu'est-ce que je veux me prouver à défier ainsi ma peur de la peur ?
Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui s'appelle « Même pas peur », les clés pour mieux gérer notre peur au quotidien. Ce que nous dit l'intelligence émotionnelle, c'est que chaque émotion est porteuse d'un message. Et donc, la peur a son message. Et le message de la peur, c'est quoi ? C'est « Je ne suis pas suffisamment préparé à une situation à venir ».
Devenu l'intégrateur négatif de nos vies, notre meilleur ennemi, le mauvais objet dont on a besoin, quelle est donc cette peur que l'on aime tant détester ? Plus que le paradoxe de rendre omniprésent quelque chose que l'on rejette, plus encore que celui de transformer la peur en autre chose qu'elle-même, il y a quelque chose de pire qui me frappe dans ce rapport à la peur, c'est ce désir de se dénaturer en pensant s'améliorer. On veut transformer un signal primaire d'alerte, de survie, de doute pour mieux s'apprivoiser, comme si on ne supportait pas que quelque chose de soi nous échappe. À la fin de cette saison d'American Horror Story, je m'étais donc habituée au sang, au trou et au clown. Mais quelle tristesse ! J'avais éradiqué cette peur qui me faisait agir instinctivement. Pas une part animale, mais singulière, qui me faisait aimer ou pas telle ou telle chose, qui me rendait telle que je suis. Quelle tristesse donc ! J'avais définitivement perdu cette partie de moi qui m'échappait.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.
Un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie. Aujourd'hui, Elsa Le Saulnier, accompagnée d'Isis Jourda, Manon Delasselle, Anaïs Isbert, Clara De Giovanni, Géraldine Vosna-Savoie, Thomas Beau et Nicolas Berger réalisent cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Pierrick Monsigny. On se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions autour de Martin Scorsese. Son cinéma, 4 films seront à l'honneur. Taxi Driver, Les Affranchis, Raging Bull et Shutter Island. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous attend également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et vos questions. À lundi, 10h, pour philosopher avec Scorsese. D'ici là, Restez à l'écoute sur France Culture.